Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui vous informe tout en chauffant vos zygomatiques pour un réveil informé et enjoué, grâce à la bonne humeur consubstantielle à notre équipe, surtout depuis hier qu'on a appris qu'Eva Rock avait enfin trouvé un Jules.
Je suis une femme amoureuse.
Depuis, avec ce goût du journalisme d'investigation qui nous anime, nous tâchons, avec ma collègue Céline Dacosta, de comprendre qui, quand, comment. Autant de questions que nous formulons évidemment avec beaucoup de tact, car le respect de la vie privée est un des piliers du journalisme, fût-il d'investigation. Mais vous vivez déjà ensemble ?
Il est dans le sport ?
Non.
Il est chauve ?
Je ne dirais rien.
Une fourchette d'âge ?
Non mais vous n'avez pas joué à qui est-ce ?
Il est jeune, si elle est en mode cougar. Heureusement, Debout les copains, ce n'est pas qu'une sitcom voyeuriste. C'est aussi l'expertise de Fabrice Dalméda. Et si c'était Dalméda ? Non, bon, bref, le monsieur histoire d'Europe 1. Le monsieur histoire d'Europe 1 qui ce matin fêtera les 100 ans de la prohibition aux États-Unis. Cette période où, je le rappelle, la vente d'alcool était interdite.
Oh mon Dieu !
Eh oui.
Mais oui. Merci d'écouter Europe 1 ce jeudi 17 janvier. Et très bon réveil à tous, il est 6h. 5h-7h, Mathieu Noël.
Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce jeudi 17 janvier. Bonjour Céline Kallmann.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin.
Le grand débat lancé par Emmanuel Macron décliné localement. Première réunion hier soir dans la commune de Saint-Germain au Mont d'Or dans le Rhône. Dans ce journal, le témoignage d'un manifestant blessé par un tir de lanceur de balles de défense. Il a perdu un œil. Et puis Theresa May a retenu de son souffle. Le Parlement britannique a rejeté de justesse la motion de censure à son encontre.
Europe 1.
Première phase concrète du grand débat voulu par le gouvernement, c'est un petit village qui a ouvert la danse, la commune de Saint-Germain au Mont d'Or dans le Rhône, 3000 habitants. Après la mise en place des cahiers de doléances, le maire du village est donc passé de la parole au débat. Rémi Pierre.
Dans le gymnase communal, ils sont 150 environ, assis en rond sur des chaises. Au milieu de l'arène, Renaud Georges, le maire de la commune, organisateur du débat. Les premières questions fusent, reformulées parfois par le maire.
Vous avez parlé de Chantal Jouanneau, j'ai bien entendu. Vous étiez plus dans la question du « est-ce qu'elle mérite son salaire ?»
Qu'est-ce qui peut justifier un salaire pareil ? Qu'est-ce qu'elle fait comme boulot ?
Les questions s'enchaînent ensuite, reprenant les thèmes évoqués depuis le début du mouvement des Gilets jaunes.
À mon avis, il faut partir sur une nouvelle constitution qui redonne la voix à des citoyens lambda avec du tirage au sort.
Il y a des gens actuellement qui, en France, n'ont pas de quoi se nourrir. Il y a des personnes qui viennent autour d'un rond-point parce qu'elles ont plus chaud autour d'un rond-point que chez elles.
La transition énergétique, c'est le sujet le plus important aujourd'hui. C'est ce qui va influer en fait sur notre survie.
Après 2 heures d'un débat apaisé mais animé, Lucie, une jeune habitante, est plutôt satisfaite.
Ça a été positif pour moi, oui. Après, je ne sais pas si ça va désamorcer la crise des gilets jaunes, mais en tout cas, en termes de démocratie citoyenne, je trouve que c'est un peu positif, oui.
En revanche, Nicolas, un des rares gilets jaunes présents, n'est pas vraiment convaincu.
Tant qu'on n'arrivera pas à instaurer un certain climat de confiance, eh ben, moi, je ne reviendrai pas. C'est un coup d'épée dans l'eau. Je suis venu avec de gros a priori et je repars avec.
Des gilets jaunes réservés, mais dont l'une des intervenantes a rappelé que sans eux, ce débat n'aurait jamais eu lieu.
Un reportage signé Rémi Pierre pour Europe 1. Laurent Wauquiez, lors d'une réunion publique hier soir dans la banlieue de Toulouse, a critiqué la façon dont Emmanuel Macron avait lancé le grand débat. Est-ce cela que d'écouter les Français, a-t-il dit, s'enfermer dans un gymnase avec des maires en faisant un long monologue ? Le patron, Les Républicains, a toutefois assuré que son parti allait participer au grand débat.
C'est le successeur du flashball, le LBD-40, lanceur de balles de défense. Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, le nombre de blessures occasionnées par ces tirs explose.
Oui, l'arme utilisée par les forces de l'ordre a fait 69 blessés depuis le 17 novembre. Europe 1 révèle que la France a choisi d'armer les policiers et gendarmes avec les munitions les plus puissantes du marché. Et les blessures causées par cette arme sont parfois irréversibles. Philippe Gilet jaune à Lons, près de Pau, a perdu un œil le 8 décembre dernier alors qu'il était venu à Paris sur les Champs-Élysées pour manifester. Il témoigne au micro Europe 1 de Théo Manval.
J'avançais vers les gendarmes mobiles pour quitter la manifestation sans signe d'agressivité ou quoi que ce soit. Je vois le gendarme mobile qui me vise et je pense que c'est pas pour moi puisque je me dis mais je suis trop près, c'est pas possible. Et à 5-6 mètres de eux, je prends un tir de flashball dans l'œil droit. Un tir tendu, c'est un tir tendu. C'est un tir volontaire dans la tête. Le choc était d'une extrême violence. Je ne verrai plus de cet œil. Je suis clairement borgne. Je suis chauffeur routier, hein. J'étais. Pour le coup, ben, je perds mon œil, mon métier. Je veux même pas qu'on recherche le gendarme responsable. En revanche, mon combat maintenant, il va être de leur sortir ces armes qui sont véritablement dangereuses, qui éborgnent, qui mutilent. Ils sont en flip total et le premier gilet jaune qui s'avance vers eux, bing bang.
Témoignage, recueilli par Théo Manval pour Europe 1. Notez que cela fait près d'un an que le défenseur des droits demande l'interdiction de l'usage du LBD 40 par les forces de l'ordre. Les syndicats de chauffeurs VTC ont dénoncé un échec complet de leur rencontre au ministère des Transports hier soir. Ils souhaitaient obtenir notamment un tarif minimum.
Des gestes exceptionnels pour les victimes de la violente explosion rue de Trévise, samedi à Paris.
Les assureurs vont prendre en charge les frais de relogement pendant une durée minimale de 2 mois. Une avance immédiate va aussi être versée pour que les rescapés puissent faire face à leurs besoins urgents. Par ailleurs, la mairie de Paris a indiqué que 6 immeubles menaçaient de s'effondrer à cause de l'explosion. Bruno Le Maire a demandé hier la convocation dans les prochains jours d'un conseil d'administration de Renault. Objectif, désigner un successeur à Carlos Ghosn. Cela fait 2 mois que le PDG de Renault a été arrêté au Japon. Il est donc lâché par l'État français. Les suites de l'affaire Benalla. Hier, le directeur de cabinet de l'Élysée a été entendu par la commission d'enquête du Sénat. Patrick Sroda a révélé qu'Alexandre Benalla avait utilisé 20 fois ses passeports diplomatiques entre août et septembre dernier. L'ancien chargé de mission de l'Élysée s'expliquera lundi devant les sénateurs.
Europe 1, il est 6h04.
Sur le fil, Theresa May échappe de justesse à la motion de défiance menée par les travaillistes.
325 députés l'ont soutenue après le rejet massif de l'accord sur le Brexit. 306 ont indiqué ne plus lui faire confiance. Theresa May s'est exprimée après le vote. Elle a affirmé qu'elle ne prenait pas cette responsabilité à la légère.
Ce soir, le gouvernement a gagné la confiance du Parlement. Cela permet maintenant de se concentrer pour trouver comment avancer. C'est mon devoir d'appliquer la décision du peuple britannique de quitter l'Union européenne. Alors maintenant que les députés ont bien montré ce dont ils ne veulent pas, nous devons tous travailler ensemble de façon constructive pour trouver ce qu'ils veulent. C'est pourquoi j'invite les députés de tous les partis à se rassembler pour avancer. Ça ne sera pas facile, mais les députés ont le devoir de travailler à l'intérêt national. Il est temps de mettre les intérêts personnels de côté.
Theresa May avec Sébastien Krebs pour Europe 1. Dans l'actualité également, 4 Américains, dont 2 militaires, tués dans un attentat suicide en Syrie hier. Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque qui a fait au total 16 morts. Et puis un record pour la ville de New York qui a accueilli l'année dernière un petit peu plus de 65 millions de touristes. La ville est particulièrement prisée des Britanniques, Chinois, Canadiens, Brésiliens et Français. New York arrive 6e au classement des villes les plus visitées au monde par les étrangers. Paris et 3e derrière Londres et Bangkok.
Et Zurich alors ?
Aucune idée.
Vous n'avez pas enquêté ?
Mais c'est très très beau, c'est une très belle ville.
C'est un peu ce que j'attendais de vous. Merci, c'était...
Je vous donne tout ce que vous voulez.
Vous allez voir, c'était le journal de Céline Kallmann, une journaliste dont la parole libre en ces temps de politiquement correct fait du bien. Hier, nos auditeurs ont pu découvrir l'édito de Céline sur les risques qu'il y avait, non pas à boire de l'alcool, mais à boire moins d'alcool.
J'ai ingurgité aucune goutte d'alcool, j'ai fait du bien à mon corps.
Ça va, t'es pas enceinte, mec.
Aujourd'hui, découvrons le regard de Céline Kallmann sur la baisse de la démographie française. Elle a déjà 3 enfants, à quand le 4e, se demandait logiquement Eva.
T'as fini, tu vas pas en faire un 4e?
Ah non, c'est bon.
Ah, je pensais que t'aurais voulu un...
Non, c'est bon, mais tu le mets où après?
On n'est pas prêt de repeupler la France avec ça.
Europe 1.
5h-7h, Mathieu Noël.
À suivre, c'est historique, le fact-checking par l'histoire. Et ce matin, à l'occasion de ses 100 ans, Fabrice Dalméda revient sur l'histoire sombre et tumultueuse d'une loi américaine qui a donné lieu à bien des trafics et à bien des romans noirs, la prohibition.
Il est 6h07. Il est 6h08, Mathieu Noël.
L'heure d'un point sur la météo du jour avec vous, Céline Dacosta. Encore beaucoup de nuages et un peu de pluie.
Oui, c'est vrai. Ça particulièrement entre le sud-ouest et le nord-est. C'est le reste de notre perturbation d'hier qu'on retrouve ici. Partout ailleurs, le ciel sera mitigé, partagé entre nuages éclaircis et averses. Des nuages un petit peu plus nombreux sur le nord-est dans l'après-midi, sur les Alpes et l'ouest de la Corse, et puis on aura toute la journée de la neige sur les reliefs. Ce sera un petit peu plus lumineux sur les côtes de la Manche et sur les côtes atlantiques, où là on aura du soleil et un temps sec, de la Bretagne au nord de l'Aquitaine. Quant aux températures, elles sont douces ce matin et vont baisser cet après-midi. C'est le début de cette baisse dont on parlait hier et qui va s'amorcer, qui va continuer au moins jusqu'à la semaine prochaine.
Merci Céline. À la question Eva, qui est votre nouveau mec ? Pas de réponse encore, on attend que lâchiez le morceau, mais pour l'instant
on connaît mieux nos auditeurs à qui on a posé quelques questions sur leur âge, leur prénom et leur signe particulier en ce jour de recensement. Eh bien, Aurélie nous dit, elle a 35 ans, elle vit aux États-Unis. Quand vous commencez, je vais me coucher. Elle travaille à la poste américaine et elle se lève très tôt comme nous. Vous êtes la première chose que j'écoute le matin et je vous adore, nous dit-elle. Et puis, Caranoïaque, en fait, elle s'appelle Carole. Elle a 43 ans, se réveille tôt pour écouter Debout les copains, regarde toutes les multidiffusions de Friends et de Dirty Dancing et elle aime beaucoup l'humour. On vous embrasse tous, vous continuez à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Merci beaucoup, chers auditeurs et auditrices.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
À Avant d'ouvrir le journal des sports, j'aimerais ce matin décerner un prix. Non pas le Ballon d'Or, mais le Pipeau d'Or. Pipeau d'Or qui revient sans conteste
tout, hein.
à cette athlète niçoise hors norme, championne du monde 2018 de mytho. Eva Rock qui nous déclarait hier donc tranquillement entre deux chouquettes.
J'ai fait de la compétition, mon cher Mathieu. Surtout de l'athlétisme. Mais bien sûr, j'étais dans les meilleures françaises.
Oui, dans l'épreuve du lancer de soca. Ne dites pas n'importe quoi, Eva. Ne dites pas n'importe quoi, on est dans une tranche info. On passe au journal
vous
des sports.
Vous voulez vraiment qu'on aille courir ensemble ou pas? Dites oui.
Allez,
oui, ça me ferait plaisir.
Non, mais je veux bien qu'on nage ensemble. On passe au journal des sports de Jérôme Lacroix. À la une, Jérôme. Oui. Scénario catastrophe.
Oui, le titre barre ce matin la une du journal La Provence. Les footballeurs marseillais ont encore perdu hier soir en Ligue 1. 2-1 à Saint-Étienne, 9 matchs d'affilée sans victoire. Pourtant, ils ont longtemps mené au score avant d'encaisser un doublé du Stéphanois à Caseri, dont le second but dans les ultimes instants. Le Marseillais champion du monde Florian Thauvin, triste mine, mais dit-il, l'équipe a fait bonne figure.
C'est vrai que c'est triste ce soir parce que ce résultat nous enfonce encore un peu plus. Mais de ce que j'ai vu ce soir, je trouve que c'est pas mérité. C'était bien mieux que d'habitude et je pense très sincèrement que si on continue à jouer comme ça jusqu'à la fin de saison, on va gagner beaucoup de matchs. Aujourd'hui, voilà, on va pas se mentir, mais c'est vrai que je pense qu'on est sur le bon chemin et ça va revenir.
Et ce matin, les Marseillais sont 9e à 8 points du podium qui est l'objectif de fin de saison.
Les Stéphanois, eux, grimpent sur le podium. Ils sont 3e.
Devant les Lyonnais, 4e. Ils se retrouvent dimanche pour le show derby. Hier soir, ces Lyonnais ont sauvé de justesse le résultat nul de partout à Toulouse. Également hier soir, notamment, Monaco-Nice 1 partout. Et puis les Strasbourgeois défieront les Parisiens au Parc des Princes mercredi prochain en 16e de finale de Coupe de France. Victoire alsacienne hier soir 1-0 à Grenoble après prolongation.
Le tennis, et il pleut, non pas sur Nantes, mais sur Melbourne.
Match de l'Open d'Australie interrompu, le temps de fermer le toit au-dessus des principaux cours. Et attention, c'est l'heure, Mathieu, du pari du jour. Mais célèbre pari.
On n'a pas une musique pour le pari du jour.
Les joueurs français.
C'est dommage.
Les joueurs français que je suis le seul à soutenir autour de cette table.
Mais pas du tout,
aujourd'hui,
on les adore.
Aujourd'hui,
au contraire, on est déçus.
Aujourd'hui, je mise, c'est risqué, hein, sur Joe Wilfried Tsonga, 177e mondial. Il affronte Novak Djokovic, le numéro 1, pour une place au troisième tour.
Et vous pariez combien exactement?
Je sais pas,
pariez pas votre salaire.
Pariez petit. Une affiche qui fait remonter à Tsonga le souvenir de 2008. Les deux hommes s'affrontaient alors en finale du Grand Chelem australien. Tsonga avait perdu. 11 ans plus tard, le Mansot l'avoue, la rencontre a fait prendre une autre dimension à sa carrière et pas forcément dans le bon sens.
Un joueur comme lui, il était déjà tête de série, il était déjà dans le top 10. Et moi, je venais un peu de nulle part et je passais du petit gars de Savigny-l'Évêque dans la Sarthe, qui allait à la pêche avec ses potes, à un finaliste en Grand Chelem. Et avec beaucoup de gens derrière qui avaient envie que je joue très bien. Et c'était pas forcément évident à gérer.
Et par ailleurs, 5 autres Français aujourd'hui sur les courts: Cornet, Chardy, Herbert, Simon et Pouille.
Un autre rendez-vous du jour, le handball.
Dernier match du premier tour du mondial en Allemagne pour les Bleus. France-Russie, 20h30, avec très certainement le retour sur les terrains de Nicolas Karabatic. Revenu à très grande vitesse d'une opération à un pied mi-octobre, les Français sont déjà qualifiés pour le tour suivant.
On termine, Jérôme, avec l'histoire du jour.
Des barrières qui tombent grâce au foot. 15 000 femmes saoudiennes ont pu assister en tribune à un match de football hier soir. C'était la finale de la Supercoupe d'Italie. Délocalisé en Arabie Saoudite, le pays a autorisé pour la première fois des supportrices à assister à une compétition internationale. Pour l'anecdote, au résultat du match, victoire 1-0 de la Juventus Turin sur l'AC Milan.
C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Merci Jérôme. Avant de passer à la rubrique histoire de Fabrice Almeida, faisons quand même un point sur le problème de mythomanie d'Eva Rock. Voyons si ça s'améliore. Eva, dites quelque chose.
Je pense qu'on peut faire la fête sans alcool.
Oui, bon, pardon, il faut qu'elle consulte. Place à l'histoire.
Europe 1.
Je vous ai compris.
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice Almeida.
Bonjour à toutes et à tous.
En 2019, on célèbre le centenaire de la prohibition, cette décision de bannir l'alcool aux États-Unis. Cet anniversaire éclaire nos débats sur l'alcool aujourd'hui.
Oui, oui, oui. La prohibition est entrée en vigueur le 16 janvier 1920. Pendant la Grande Guerre, l'alcool avait servi à motiver les troupes américaines et à calmer les civils. L'État fédéral avait profité des taxes sur les spiritueux pour financer son action. Mais après l'armistice, les ligues anti-alcooliques qui depuis un siècle souhaitaient une interdiction avancent un nouvel argument familial. Les pères alcooliques détruisent les vies de leurs femmes et celles de leurs enfants. Or les femmes désormais ont le droit de vote et soutiennent la prohibition. Sont donc interdites en 1920 la production, la distribution et la vente d'alcool, mais pas la consommation.
Et oui, et donc ça a été efficace ou pas?
La première année, oui, avec une baisse des décès et des violences, mais très vite, des bars clandestins sont créés. Les trafiquants s'emparent de ce secteur fructueux, ils font fortune. Ce sont les années folles, avec le jazz et le gangster Al Capone. L'alcool frelaté fait des milliers de morts, si bien qu'en 1933, le président Roosevelt met fin à la prohibition.
Ça veut dire en fait que tout le monde a pu boire n'importe quand.
Ben non, évidemment, certains États fédérés l'ont maintenu. Les mineurs, évidemment, étaient aussi protégés. La consommation a été interdite pour certains métiers. En fait, la sortie de la prohibition a signifié un contrôle des taux et des types d'alcool et des populations qui pouvaient les consommer. Elle a consisté à limiter les risques avec pragmatisme. Et c'est tout cela qui est en débat aujourd'hui autour des alcools forts et bien sûr des drogues douces.
Merci beaucoup Fabrice Elmeda, l'histoire à la rescousse de l'actualité. On vous retrouve demain. Peu avant 6h15.
Europe 1, il est 6h16, Mathieu Noël.
Debout les copains continuent, 2 heures d'infos, de bonne humeur et d'invités au cœur de l'actu. À 6h20, à l'occasion du lancement de la campagne 2019 de recensement, nous recevrons Valérie Roux, chef du département démographie de l'INSEE. La barre des 67 millions de Français a été dépassée, mais dans certains départements, la population régresse. Lesquels, pourquoi et comment se déroule concrètement un recensement à l'heure du numérique? On en parle. Mais avant ça, un peu de musique. Patrick Fiori, Les gens qu'on aime sur Europe 1.
Claire.
Mais c'est bizarre, c'est pas Patrick Fiori ça. Bah alors, certainement un bug en régie. Je crois plutôt reconnaître Juliette Armanet. Je suis confus, ou pas.
Europe 1, 5h-7h, Mathieu Noël.
Debout les copains continue, 2 heures pour tout savoir de l'actu sans jamais oublier d'en rire, info, enquête et interview. À 6h20, nous évoquerons le recensement 2019 qui démarre. Comment va-t-il se dérouler concrètement pour vous? Que devrait-il nous apprendre? Nous serons en studio avec Valérie Roux, chef du département démographie de l'INSEE. Car pour compter autant de monde, mieux vaut faire appel à une spécialiste. Moi, les chiffres, quand il y en a trop, quand il y a trop de zéros, je m'y perds.
Des millions. Des millions. Vous voyez ce que ça fait déjà? 1 million.
Il est 6h19.
Il est 6h21, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Ce matin, 9h30, cérémonie d'hommage aux pompiers tués samedi dans l'explosion d'un immeuble rue de Trévise à Paris. Cérémonie en présence notamment de Christophe Castaner. À Toulouse, Emmanuel Macron va présenter ses vœux aux armées. Le chef de l'État doit prononcer un discours à 17h. Plus tôt dans l'après-midi, il rencontrera le groupement des commandos parachutistes. Outre-Manche, Theresa May échappe de justesse à une motion de censure contre son gouvernement. Le non l'emporte avec 325 voix contre 306 pour le oui. En fin du sport, suite des championnats du monde de handball ce soir, la France affronte la Russie.
Europe 1,
5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici pour les titres de ce jeudi 17 janvier 2019. Et l'actu aujourd'hui, c'est aussi le démarrage de la campagne de recensement 2019. 24 000 agents recenseurs vont se présenter dans 5 millions de foyers avec pour objectif de mieux connaître la population française pour prendre ensuite des décisions politiques adaptées. Bonjour Valérie Roux.
Bonjour.
Vous êtes chef du département démographie de l'INSEE. Première question très pratique, très concrète. Comment les auditeurs peuvent-ils savoir s'ils sont concernés par cette vague de recensement ?
Alors le recensement concerne une partie des habitants dans les communes de plus de 10 000 habitants. Et tous les habitants, mais seulement dans 20% des communes de moins de 10 000 habitants. Les personnes concernées vont recevoir un courrier dans leur boîte aux lettres.
Ah, ils ne l'ont pas encore reçu aujourd'hui, ils vont le recevoir.
Certains ont pu le recevoir, ouais. D'autres vont le recevoir ces jours-ci. Et un agent recenseur va se présenter à leur domicile pour leur expliquer, physiquement, pour leur expliquer le recensement et leur remettre une notice avec des codes d'accès pour leur permettre de répondre par Internet.
Est-il obligatoire d'ouvrir la porte à l'agent recenseur et de répondre à toutes ces questions? Si, par exemple, on n'a pas le temps.
Alors, le recensement est effectivement obligatoire et passible d'une petite amende. L'agent recenseur a une carte bleu-blanc-rouge, donc on peut le reconnaître. Il y a sa photo et la signature du maire, c'est très important. Mais le recensement, c'est surtout un acte citoyen, court et très important pour votre commune parce qu'il va lui permettre de prendre des décisions adaptées à la population et à ses évolutions.
Mais Valérie Roux, à l'heure du tout numérique, quel est l'intérêt que quelqu'un physiquement se présente à votre porte? On ne peut pas remplir un questionnaire pareil, on le renvoie par mail?
En France, on a une difficulté, c'est d'arriver à bien connecter les boîtes aux lettres des personnes au logement de ces personnes. Parce que quand les personnes ne répondent pas, il faut pouvoir savoir à quelle porte ensuite aller toquer pour leur redemander de répondre. Donc on mène une expérimentation cette année dans 200 communes où effectivement l'agent recenseur ne va pas aller taper à la porte des gens, mais remettre le formulaire dans la boîte aux lettres, mais uniquement pour les maisons individuelles où on a bien cette connexion boîte aux lettres, porte.
Alors, on sait maintenant comment ça marche et à quoi ça sert un recensement?
Le recensement permet d'abord d'établir le nombre d'habitants de chaque commune, département, région. De ce nombre d'habitants dépendent directement les dotations financières que la commune va recevoir de l'État. Donc, c'est très important pour le maire de bien compter sa population. Au-delà du comptage de la population, ça permet aussi de savoir quel est le profil des habitants et ainsi d'éclairer les décisions des collectivités. Par exemple, si vous avez des familles qui arrivent sur un territoire, il va falloir ouvrir des places en crèche, bien dimensionner les écoles.
D'accord, c'est crucial. À l'échelle du pays, nous sommes désormais presque 67 millions d'habitants, hein, 66 993 000 visiblement. On s'aperçoit que dans une zone allant du nord-est au sud du Massif central, appelée Diagonale du Vide, la population a reculé de 0,5% alors que le reste du territoire gagne des habitants. Comment on l'explique ?
Alors dans ces territoires, on a de plus en plus souvent à la fois plus de décès que de naissances parce que la population vieillit avec le vieillissement des générations du baby boom. Et on a aussi plus de départs de ces territoires que d'arrivées. Et en particulier quand ces communes sont éloignées de grandes métropoles, ce que l'on observe particulièrement dans cette diagonale.
Et alors depuis 10 ans, comment s'est déplacée la population en France ? Est-ce qu'il n'y a pas un peu l'inverse de l'exode rural, un exode urbain avec les loyers qui ne cessent de flamber dans les grandes agglomérations ? Est-ce qu'il y a un retour à la campagne ou dans les villes plus petites ?
La population se déplace beaucoup vers le littoral atlantique, en Occitanie et également dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et on a aussi beaucoup de personnes qui arrivent en Corse, avec une croissance très forte de la Corse à 1% par an. Et évidemment la Guyane, qui elle reste avec Mayotte le département français qui croît le plus.
Est-ce que toutes ces données que vous récoltez peuvent éclairer, notamment ces données géographiques, peuvent éclairer l'actualité et la crise des Gilets jaunes, notamment quand on parle de la diagonale du vide ?
Alors l'objectif de l'INSEE, c'est effectivement de bien mesurer les phénomènes sociaux, de les mesurer dans le temps pour pouvoir voir leurs évolutions et ensuite de permettre à d'autres analystes, des sociologues, des démographes, de pouvoir éventuellement faire des rapprochements avec l'actualité. Je sais qu'un démographe a commencé à analyser un peu la participation au mouvement Gilets jaunes et à repérer qu'elle semblait plus importante dans la diagonale du vide. Mais ce n'est pas une étude de l'INSEE et je ne peux pas vous assurer que ces résultats sont fiables.
D'ailleurs, vous ne vendez pas les données qu'on va donner à l'agent recenseur.
Non, toutes les données sont traitées de manière anonyme et mises à disposition sur Internet. Vous avez énormément de données du recensement sur Internet.
Un dernier mot sur l'espérance de vie. Est-ce que ça s'améliore ? Est-ce que surtout l'écart entre l'espérance de vie de l'homme et de la femme est en train de diminuer ? Je me suis laissé dire.
L'espérance de vie progresse encore légèrement en France. Surtout, on est un pays où l'espérance de vie est très élevée, surtout pour les femmes. On est le deuxième en Europe.
Mais oui, je sais ça.
L'écart.
Mais pour les hommes, l'écart, ça s'améliore.
Pour les hommes, ça s'améliore. L'écart est de 5 ans. Il se réduit légèrement, mais il reste quand même très marqué.
Bon. Il est un peu hypochondriaque, vous inquiétez pas, Valérie.
Oui, c'est pour ça. Mais écoutez, merci beaucoup, Valérie Roux, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes chef du département démographie de l'INSEE.
Europe 1. Il est 6h27, Mathieu Noël.
Debout les copains continue sur Europe 1 avant de retrouver le journal de 6h30 de David Doucan. La météo revient et c'est un temps mitigé qui nous attend, mi-folichon, mi-morne. Un temps mornichon, en somme.
Il est 6h28, Mathieu Noël.
Avant de retrouver le journal de 6h30, on fait un point sur la météo du jour. Avec vous, Céline, un ciel perturbé.
Oui, on va retrouver une zone pluvieuse du sud-ouest au nord-est avec de la neige sur les reliefs des 700-800 mètres d'altitude. Quelques averses encore le long de l'Atlantique et des côtes de la Manche ce matin où on pourrait même avoir quelques coups de tonnerre et du vent. Pour les autres, ciel nuageux, quelques éclaircies mais timides. C'est un petit peu plus lumineux des Pays de la Loire au nord de l'Aquitaine. Et puis, c'est bien couvert en revanche avec des averses sur les Alpes-Maritimes et l'ouest de la Corse. Les températures ce matin sont assez douces avec ce passage pluvieux, 1 degré à Mulhouse, 5 à Lille, 6 à Paris, 8 à Lyon et Vannes, 10 degrés à Biarritz et Toulon.
À quoi doit-on s'attendre pour l'après-midi, Céline ?
Bien, les températures vont baisser. La moyenne ne sera plus que de 5 à 9 degrés sur la moitié nord avec 7 degrés à Paris. Voyons, on va juste gagner un petit degré par rapport à ce matin. 10 à 16 degrés encore sur la moitié sud, mais ça va continuer à baisser demain et les jours suivants. Toujours mitigé côté ciel avec des averses encore sur le flanc est. Des averses même qui seront assez présentes du sud-ouest au nord-est. De la neige sur les reliefs partout ailleurs. Ciel partagé entre nuages éclaircis et localement encore quelques averses. On aura aussi un petit peu de vent dans le nord-est et sur le Languedoc-Roussillon. Et puis toujours de la neige sur les reliefs.
Merci Céline Dacosta.
Europe 1.
5h, 7h.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui prend l'info au sérieux sans jamais se prendre au sérieux, à l'instar de mes complices Eva Rock et Céline Dacosta, qui profitent souvent des coupures pub pour prendre quelques selfies. Pas toujours réussi.
Tu supprimes cette photo. Oui.
On dirait le shérif fait-moi peur.
Fais-moi très très peur.
À suivre. Politique, économie, médias, les trois fantastiques arrivent. Au programme aujourd'hui notamment Zoom sur François-Xavier Bellamy, jeune philosophe et tête de liste probable des Républicains aux Européennes. Ce sera juste après le journal de ce professionnel qui ne laisse rien au hasard. Hier, on croyait qu'il faisait un malaise vagal. Pas du tout.
Non, je fais des exercices de langue pour davantage de précision dans le geste.
Voici venir le journal de David Doucan.
Vous écoutez Europe 1, il est 6h30.
5h-7h, Mathieu Noël.
Le journal de 6h30 avec vous, David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une aujourd'hui.
Un grand débat national, élections européennes. Laurent Wauquiez promet d'être sur tous les fronts. Le patron des Républicains faisait sa rentrée politique hier à côté de Toulouse. Reportage dès le début de ce journal. L'Élysée se défend dans l'affaire Benalla. En attaquant, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron accuse l'ancien chargé de mission d'avoir fait usage d'un document falsifié pour obtenir son deuxième passeport diplomatique. La grande distribution se saisit du sujet du bien-être animal. Le groupe Carrefour demande à tous ses fournisseurs d'installer des caméras dans leurs abattoirs.
Europe 1.
C'est le premier parti d'opposition à l'Assemblée nationale, au Sénat, mais aussi quand on regarde le nombre de ses élus locaux. Et pourtant, les Républicains peinent à se faire entendre et les sondages leur promettent les pires résultats lors des prochaines élections européennes. Dans ce contexte, le patron du parti faisait sa rentrée hier en déplacement du côté de Toulouse. Laurent Wauquiez a fait ça le comble hier soir en meeting. Il a déployé sa stratégie. Pour lui, c'est sûr, c'est dans le grand débat national que les Républicains vont trouver leur place. Les militants, eux, n'en sont pas tous encore convaincus. Reportage Benjamin Péter.
Après avoir fustigé un président qui pose des questions plutôt que d'apporter des réponses, Laurent Wauquiez, qui désigne Emmanuel Macron comme seul responsable de la crise des Gilets jaunes, a invité les militants à prendre part au grand débat.
Il faut qu'on puisse s'engager dans le débat. Je pense que c'est notre responsabilité de porter les thèmes qui sinon vont être oubliés. On voit très bien que le président de la République est en train de tenter d'esquiver les choses. Et donc nous, il faut qu'on dise clairement, un grand débat, c'est pas s'enfermer dans une salle et faire des monologues.
Mais dans les rangs des militants, si certains souhaitent défendre leurs idées, beaucoup redoutent d'être instrumentalisés par le président de la République.
Y participer, pourquoi pas, mais avec le réel sentiment d'être écouté et non pas que les petits papiers soient déjà faits avant la conclusion de ce grand débat.
Comme il veut rester sur ses positions, moi je ne pense pas qu'on puisse en sortir grand-chose.
Mais vous y participerez ?
Oui, parce que pourquoi pas, moi si j'ai des gens de mon village qui souhaitent discuter, je ne me rétracterai pas.
Je ne vois pas pourquoi j'irai discuter des idées qui ne me concernent pas. C'est un marché de dupes.
Et beaucoup de militants républicains souhaiteraient plutôt profiter de ce grand débat pour discuter entre eux du positionnement ou des prochaines alliances du parti. À Quinfonce Grive, Benjamin Péter, Europe 1.
Allez, je vous donne deux chiffres qui viennent de tomber. D'abord, un chiffre positif pour la Française des Jeux qui, en 2018, a enregistré des ventes records frôlant les 16 milliards d'euros avec notamment un bond des paris sportifs et des mises numérisées, c'est-à-dire sur Internet. Et puis un chiffre peut-être un peu moins alléchant qui vient aussi de tomber. Le marché du jouet en France a reculé de 5% en 2018, en cause notamment la chute de consommation avant Noël en raison du mouvement des Gilets jaunes. Le secteur avait aussi mal commencé l'année puisque je vous rappelle que Toys R Us et la Grande Récré avaient été placés en redressement judiciaire au premier semestre. Plusieurs scoops hier devant la commission d'enquête du Sénat qui a repris ses auditions sur l'affaire Benalla. Le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron a révélé que l'ancien collaborateur de l'Élysée avait utilisé presque une vingtaine de fois ses passeports diplomatiques après son licenciement. Il l'a aussi accusé d'avoir usé d'un faux document, une lettre à en-tête du chef de cabinet de l'Élysée pour obtenir son deuxième passeport, soupçonnant une falsification. La présidence a saisi la justice sur ce point. Compte rendu signé Aurélie Herbemont.
Quasiment 2 heures d'audition pour le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, Patrick Strauda, qui accuse Alexandre Benalla d'avoir falsifié un document pour obtenir un passeport de service en juin dernier.
Monsieur Benalla a adressé au ministère de l'Intérieur une note à en-tête du chef de cabinet, non signée de façon manuscrite. On a demandé au chef de cabinet si c'est lui qui avait adressé ce document et il n'est pas l'auteur de cette note.
Il affirme aussi qu'Alexandre Benalla a largement utilisé ses passeports diplomatiques une fois licencié, une vingtaine de fois depuis août, malgré les relances pour les restituer au Quai d'Orsay. D'après Jean-Yves Le Drian, ils n'ont pas pu être invalidés pour des raisons techniques.
Essentiellement liées à l'incompatibilité entre les bases de données du ministère des Affaires étrangères et celles du ministère de l'Intérieur.
Les sénateurs sont parfois médusés. Jean-Pierre Sueur, co-rapporteur de la commission.
On se retrouve avec un nouveau stock de questions, de contradictions et de carences et de dysfonctionnements.
De quoi alimenter la nouvelle audition d'Alexandre Benalla lundi.
Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1. L'État lâche désormais clairement Carlos Ghosn. Bruno Le Maire a demandé la convocation dans les prochains jours d'un conseil d'administration de Renault. Je vous rappelle qu'à 7h, Carlos Ghosn est toujours PDG du constructeur français. Le ministre de l'économie considère maintenant qu'il est temps de désigner un successeur.
À suivre dans ce journal, la grande distribution veut désormais se soucier du bien-être animal. Le groupe Carrefour ne veut plus que des abattoirs irréprochables. À tout de suite.
Il est 6h35. Il est 6h36, Mathieu Noël.
La suite du journal David Doucan. Les hypermarchés Carrefour ne veulent plus que des abattoirs irréprochables.
Oui, le groupe de grande distribution a annoncé d'abord un audit sur tous les abattoirs qui le fournissent en viande. Et puis, il exigera par la suite l'installation de caméras. Reportage auprès des fournisseurs. Hélène Terzian.
Son abattoir fournit des poulets fermiers d'Auvergne au groupe Carrefour. Conscient de l'impact sur son secteur des vidéochocs qui ont fait le tour des réseaux sociaux, Marc Saunier se dit prêt à installer des caméras dans son établissement.
Je ne suis pas inquiet sur nos pratiques. Par contre, je suis inquiet de la réaction des consommateurs et pour les rassurer, je suis prêt à installer des caméras qui vont filmer les opérateurs en contact avec les animaux vivants.
Avec l'aide d'une ONG pour le bien-être animal, Carrefour va travailler avec 3 sites pilotes où la vidéosurveillance est déjà mise en place. Objectif, établir une sorte de charte de bonne conduite pour les 84 abattoirs qui seront bientôt équipés. Parce qu'aujourd'hui, explique Laurent Vallée, secrétaire général du groupe Carrefour, le consommateur veut toujours plus de transparence.
Au début, c'était d'où vient la viande, est-ce qu'elle est française ou pas ? Après, c'est est-ce qu'elle est locale ou pas ? Et aujourd'hui, les conditions d'élevage au sens large sont, oui, des éléments que les consommateurs attendent à la fois des producteurs, des éleveurs et du distributeur qui les met en rayon.
Les images seront dans les mains des responsables du bien-être animal de chaque abattoir et pourront être visionnées sur demande de Carrefour.
Et j'ajoute à ce reportage signé Hélène Terzian qu'avec cette initiative, Carrefour est en quelque sorte mieux disant que l'État lui-même, puisque je vous rappelle qu'après un débat houleux au Parlement, la majorité avait décidé de ne pas rendre obligatoire la présence de caméras dans les abattoirs. Le Service national universel. On en sait un peu plus sur son contenu. Le ministre en charge de ce dossier, Gabriel Attal, a donné hier quelques détails. Une phase test commencera dans 13 départements pilotes dès le mois de juin prochain. Alors qu'est-ce qui attend nos jeunes ? Élément de réponse, Justin Morin.
Levé à l'aube, en uniforme, la journée commencera par le salut au drapeau et le chant de l'hymne national. Un moment de communion républicaine, l'un des leitmotivs de ce service national universel. Hébergé dans des structures du département, les internats, les centres de formation ou dans des bâtiments de l'armée. Ces jeunes seront répartis par groupes de 10, avec si possible le plus de mixité sociale, encadrés par des éducateurs et des militaires. Ce sont eux qui les formeront au premier secours, aux valeurs de la République, à la protection de l'environnement ou au comportement à adopter en cas d'attentat, avec toujours à l'esprit une pédagogie active, selon les mots du ministre de l'Éducation nationale, c'est-à-dire privilégier l'action plutôt que la théorie. Par exemple, en proposant des jeux de rôle, des parcours en forêt, des courses d'orientation, les jeunes doivent apprendre à être citoyens acteurs. La deuxième phase, celle de la mission d'intérêt général, s'effectuera entre juillet 2019 et juin 2020. 15 jours consécutifs ou disséminés tout au long de l'année au sein d'une association ou d'une collectivité locale. À terme, chaque année, 800 000 jeunes feront leur service national universel.
Information signée Justin Morin pour Europe 1. Les deux résultats de football pour finir. Strasbourg s'est qualifié hier pour les 16e de finale de la Coupe de France en battant Grenoble, club de Ligue 2, 1-0. Strasbourg affrontera le Paris Saint-Germain au prochain tour. Et puis,
Le journal de David Doucan.
Et puis, mon cher Mathieu, ne soyez pas dans une logique de censure. Ce n'est ni dans votre intérêt ni dans celui de nos auditeurs, puisque en Ligue 1, la série noire continue,
ça va, oui,
Mathieu,
bon, bah, vas-y, crache le
pour
score.
Marseille. Oui. Pour Marseille, battu à Saint-Étienne.
Voilà, au terme d'un très beau match. Au terme
de
très beau match, on a longtemps mené. C'était le journal de David Doucan. David, qui est cette conscience, ce petit ange posé sur mon épaule pour me raisonner lorsque j'ai tendance à m'emballer. Ainsi, hier, c'est vrai que j'étais un peu euphorique suite au bon résultat d'audience de notre 5-7. Et David a une fois de plus su me rappeler à la raison.
Incroyable. Hallucinant. Tu vois, le boulard, ça vient vite. Hein. Alors que moi, qui l'ai toujours eu, au moins je suis prémuni.
Merci David, que serais-je sans vous
hein. Bien sûr. Avoir toujours eu le melon, c'est la garantie de ne pas le prendre.
C'est vrai, c'est pas bête, il fallait juste y penser.
Je me permets ce
conseil. Heureusement que vous êtes là. Céline Dacosta, on passe à la météo du jour. Qu'est-ce que c'est comme météo aujourd'hui ? Les températures, qu'est-ce que c'est comme météo ? Ça ne veut rien dire cette phrase.
Oui, non, mais
les températures commencent à baisser, c'est
oui, ça
qu'il
c'est
faut
vrai.
Retenir.
Oui, alors pas ce matin, puisque après le passage de la perturbation pluvieuse,
Les minimales sont même légèrement en hausse, mais ça baisse cet après-midi puisque la moyenne sera de 5 à 9 degrés, un petit peu plus encore près de la Méditerranée. Mais demain, les gelées matinales concerneront une grande partie du pays. Côté ciel, c'est mitigé, souvent partagé entre nuages éclaircis et averses. Des averses qui sont plus présentes du sud-ouest au nord-est ce matin comme cet après-midi. Plus calme et lumineux près des côtes de la Manche et de l'Atlantique, en tout cas pour cet après-midi. Puis on aura aussi de la neige sur tous les reliefs.
Merci Céline Dacosta.
Europe 1, le 5-7, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, deux heures d'infos, de bonne humeur entrecoupée, cerise sur le gâteau, cherry on the cake, oui. De grandes émotions musicales.
Mes chers parents, je pars.
Notamment quand juste. Céline Dacosta reprend Michel Sardou, presque juste. À suivre. Ils sont trois et ils sont fantastiques, d'où leur surnom, les trois fantastiques. Politique, économie, médias. Leur avis, parfois tranché, vous aide à vous forger le vôtre. Ce matin, Mickaël Darmon nous brossera notamment le portrait d'un espoir des Républicains qui pourrait être désigné tête de liste pour les européennes, François-Xavier Bellamy.
C'est qui ce mec? C'est qui?
Je sais pas, Mickaël nous dira.
Il est 6h41. Il est 6h44, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
L'État lâche Carlos Ghosn. Bruno Le Maire a demandé la convocation dans les prochains jours d'un conseil d'administration de Renault. Theresa May a survécu de justesse à une motion de censure avec seulement 19 voix d'avance en sa faveur. La première ministre britannique s'est donc remise au travail avec la difficile mission qu'est la sienne, trouver un moyen de faire adopter un accord de Brexit par le parlementaire. Enfin, Donald Trump avait affirmé que l'État islamique était vaincu. Un attentat hier en Syrie semble démentir cet optimisme. 16 personnes, dont 4 Américains, ont été tuées dans une attaque suicide revendiquée par Daesh dans la ville de Minjeb.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Ils arrivent avec cette nonchalance qui est le propre des plus grandes stars, notamment Mickaël Darmon, qui ne nous dit même plus bonjour, mais...
Salut les filles.
Les trois fantastiques, Eva Rock pour la télé, Axel de Tarlé pour l'économie, Mickaël Darmon donc pour la politique. Mickaël, dont l'expertise est précieuse, non pas que l'analyse politique d'Eva et Céline soit limitée, hein. Au contraire, on a vu hier sur le Brexit qu'elles étaient parfaitement à même de développer une pensée cohérente fort intéressante.
Very happy, very very happy. Dans la foule.
Bah oui, very happy, mais on sait pas ce que ça va donner.
Oui, qu'est-ce que c'est la suite?
Est-ce que Mark and Spencer va rester en France?
Mais bon, l'analyse politique était quand même un métier. Mickaël Darmon, je me tourne plutôt vers vous. Hein. Dernière ligne droite chez les Républicains pour désigner la tête de liste aux élections européennes. Et c'est l'effervescence. Hein. Qui sont les candidats et quelles sont leurs chances?
Alors ce matin, on va faire une plongée dans les profondeurs de ce parti qui lui-même, dans la profondeur des sondages et à la recherche de l'oxygène. Lors de la réunion de direction mardi, Laurent Wauquiez a balayé définitivement l'idée de conduire lui-même la liste. Il a fait son choix, figurez-vous, le philosophe François-Xavier Bellamy, élu de Versailles et inconnu du grand public. L'impétrant a donc fait le tour des chapeaux à plumes, hein, comme on dit, pour désigner les grands élus, pour se présenter et vaincre des réticences, d'ailleurs comme celle de Gérard Larcher, partisan d'une droite conservatrice, proche des milieux catholiques. Bellamy va devoir convaincre ceux qui le trouvent ou trop conservateur ou trop jeune ou les deux. Bref, atterrissage sans douceur sur la planète politique. On est bien loin des hauteurs de la philosophie, d'autant qu'il y a aussi un outsider, Geoffroy Didier, ancien sarkozyste, vice-président de la région Île-de-France, qui lui se dit également de la nouvelle génération, mais avec de l'expérience. Il est aussi ancien collaborateur de Brice Hortefeux, un député européen sortant, qui ne verrait pas d'un bon œil son jeune conseiller devenir chef de file. Bref, Hortefeux pousse la candidature de Bellamy qui part avec un avantage, mais le match n'est pas plié parce qu'on évoque une autre candidature de dernière minute. Décision fin janvier, a dit Laurent Wauquiez à ses troupes.
L'enjeu pour Laurent Wauquiez, c'est de prouver qu'il peut renouveler et faire émerger une nouvelle génération.
Et oui, la pression est très forte, hein, autour de Laurent Wauquiez pour renouveler la liste pour ces élections européennes. C'est simple, si on ne renouvelle pas, on va mourir, alerte un cadre de LR. François-Xavier Bellamy, dans le magazine Valeurs Actuelles, a compris le message. Je conduirai une liste à condition qu'elle représente une droite renouvelée, a-t-il dit. Une façon donc de dire à la nouvelle garde de Laurent Wauquiez, je vous ai compris. Même si les trois sortants, Dati, Hortefeux, Morano, donc devraient être reconduits, ce sont des proches de Nicolas Sarkozy. Mais on le voit, le politique philosophe a déjà remplacé la langue de Platon par un discours de patron.
Merci beaucoup Mickaël Darmon pour cette analyse. Axel de Tarlé, on passe à l'économie. Emmanuel Macron et Angela Merkel signeront mardi à Aix-la-Chapelle un nouveau traité d'amitié franco-allemand.
Voilà, c'est 56 ans après le premier traité qui avait scellé la réconciliation entre le général de Gaulle et Konrad Adenauer. Donc mardi, Angela Merkel et Emmanuel Macron signeront un nouveau traité. Et du coup, pour cette occasion, l'ambassade d'Allemagne a commandé un sondage pour savoir quel regard nous, Français, portions sur l'Allemagne. Et le résultat de ce sondage est spectaculaire. Figurez-vous que 84% des Français disent avoir une bonne image de l'Allemagne. Donc, vous voyez, il y a vraiment un consensus. Alors, quand on demande, ce qui est intéressant, quand on demande aux Français quels sont les mots ou les idées qu'ils associent spontanément à l'Allemagne, eh bien, en premier, vous avez Angela Merkel. En deuxième, l'Europe. Alors, moi, je trouve que c'est très intéressant parce que d'abord, ça montre que la petite flamme européenne, vous savez, on dit que l'Europe, c'est une idée terminée. Bah, la petite flamme européenne, elle est toujours là avec ce moteur franco-allemand qui est au cœur de cette union construction européenne. D'ailleurs, 80, toujours dans ce sondage, 85% des Français estiment que cette relation franco-allemande, elle est essentielle pour justement continuer la construction européenne.
Et ça montre aussi, dites-vous, que les Français ne seraient pas hostiles à la réforme. Pourquoi ?
Eh bien voilà, parce que l'Allemagne est vue comme le pays de la réforme, le pays avec ses excédents budgétaires, ses excédents commerciaux, qui a su vaincre le chômage, qui a su faire des réformes difficiles. Ben, vous voyez, ça suscite quelque chose de positif. Preuve qu'il y a quand même en France une aspiration à faire des réformes. Je dis ça parce que, vous savez, c'est la petite phrase d'Emmanuel Macron sur les Gaulois qui sont réfractaires au changement. Donc la morale de ce sondage, c'est que les Français, qu'on dit bloqués et refermés sur eux-mêmes, sont finalement assez pro-européens et promptes à faire des réformes. Alors Mathieu, j'apprends beaucoup à vos côtés et j'ai décidé pour illustrer cette amitié franco-allemande, non pas de faire un quiz, de faire vraiment comme vous, de passer un petit extrait.
De Papy fait de la résistance ?
Exactement, pour illustrer cette amitié franco-allemande. Alors, je vous ai choisi le passage de Jacques Villeray, vous savez, quand c'est ce général allemand qui décrit la beauté de son pays. Écoutez.
On se bourre des quiches, on boit des énormes pintes de bière et on finit en farandole, en hurlant des tyroliennes ou en vomissant partout. On ne regrette pas sa soirée.
Et alors, il n'a pas tout à fait tort, Jacques Villeray, puisque quand on demande aux Français quels sont les mots qui sont spontanément associés à l'Allemagne,
la bière
arrive en 9e position.
Ouais, ouais. Voilà. Michael Darmon, un avis sur Papy fait de la résistance ?
Non, c'est surtout sur la manière dont les Allemands voient les Français.
Ah, oui. Alors, vous savez ce qu'on dit ? Les Français admirent les Allemands et les Allemands aiment les Français.
Voilà. Et les Allemands disent que les Français sont des passagers de seconde qui sont montés en première.
Ça c'est plus méchant.
Ouais. Il dit ça
absolument.
On va réviser
dans les
sondages,
couloirs
Axel.
Des gouvernements. Ouais.
Je retire mon vote. Eva Rock, qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir ?
On va passer à quelque chose de sérieux. Heureusement que je suis là. Envoyé spécial se décline en grand format ce soir avec plusieurs sujets sur le même thème, le glyphosate, cet herbicide dont l'usage est contesté. Ça s'appelle la spéciale d'envoyé. C'est sur France 2 à 21h. Alors toute la difficulté pour l'équipe d'Élise Lucet était d'apporter des éléments à un débat sensible sans tomber dans le jugement facile. Un des reportages met en exergue, par exemple, les méthodes malhonnêtes de la firme Monsanto pour tenter de prouver la soi-disant non-dangerosité du produit, des documents accablants qui ont permis à un jardinier atteint d'un cancer de gagner son procès contre le groupe industriel. C'était l'été dernier. Il s'appelle Dewayne Johnson et il acceptait de témoigner. Les juges ont condamné Monsanto à lui verser 289 millions de dollars.
Mais l'argent ne vaut rien pour moi parce que je suis en train de mourir. Je préférerais avoir mon salaire, une belle peau, faire du skate, de la moto, partir en vacances avec ma famille. Mes enfants et ma femme, eux, ont besoin d'argent, car leur vie est devant eux. Mais moi, c'est fini. Je veux juste vivre un peu avant de mourir. Cet argent ne suffira jamais.
Alors, il faut préciser que Monsanto a fait appel de cette décision et que Dewayne Johnson est en phase terminale. C'est un des sujets forts de la soirée, tout comme cet autre sujet, expérience très maligne, menée avec deux agriculteurs. Olivier et Vincent, ils sont à la tête d'une exploitation de même taille, environ 130 hectares. Olivier, lui, il est 100% bio. Vincent, il est pro-glyphosate. Et ils ont passé quelques jours chez l'un et chez l'autre. Chacun des arguments quant à sa conception de l'agriculture. Un dialogue intelligent, posé et sans jugement. Aux téléspectateurs de se faire son avis, je vous recommande grandement ce reportage. Mais pour finir, je vous rappelle que la justice française a annulé mardi l'autorisation de mise sur le marché du Roundup Pro 360. C'est un désherbant commercialisé par Monsanto et contenant du glyphosate. D'autres produits pourraient dans la foulée être interdits. C'est à voir sur France 2 à 21h.
Merci beaucoup Eva Rock. Merci Axel de Tarlé, Michael Darmon. Les trois fantastiques seront de retour demain peu avant 7h moins le quart. Au revoir Michael.
Salut les filles.
5h-7h, Mathieu Noël.
Debout les copains, entre dans sa dernière ligne droite. Et vos sanglots longs ou pas ne pourront rien changer car j'ai piscine et je ne veux pas me mettre en retard. À venir, le débrief de la matinale d'hier, celui de Nikos Aliagas, un moment souvent sympa.
Ah mon Dieu !
Voire jouissif, j'espère que vous serez aussi heureuse avec notre animateur du jour puisque c'est Pierre de Villeneuve qui officiera aujourd'hui. A tout de suite.
Et les 6h52. Il est 6h55, Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, dont le 5-7 de Boulet Copain ne sera bientôt plus qu'un vague souvenir. Et à cette idée, d'ailleurs, mon petit cœur se serre. La nostalgie de ces deux heures passées avec vous m'envahit et j'ai envie de fredonner.
C'était bien.
Même si je sais que ce sera tout aussi chouette avec vous, Pierre de Villeneuve, puisqu'on embrasse Nikos qui nous reviendra très vite. Pierre de Villeneuve qui a vite compris les enjeux de ce remplacement de dernière minute en se posant les bonnes questions quand on lui a appris la nouvelle.
Si Michelle Obama était en face de moi, qu'est-ce qu'elle me dirait?
Je sais pas, sûrement aller me chercher un café. Car oui, Pierre de Villeneuve, ce n'est pas seulement une rigueur journalistique, c'est aussi une élégance aristocratique, un port de tête, mais également...
ce sifflement au-dessus de la culasse.
Allez, on met un peu d'huile et c'est parti pour le débrief de la matinale de Nikos, celle d'hier. Une matinale marquée au lendemain de la prise de parole d'Emmanuel Macron devant les maires normands par le côté subversif, pour ne pas dire insolent, de nos éditorialistes politiques et de Nikos lui-même vis-à-vis du président de la République. Attention messieurs, je veux bien qu'on critique, mais il faut je crois respecter un minimum la fonction présidentielle. Là, c'était vraiment violent.
Emmanuel Macron, dans cet exercice, il a d'abord montré une compétence technique assez éblouissante. C'est maîtriser quand même tous les dossiers.
Et puis plus que des réponses concrètes aux doléances des uns et des autres, c'était surtout un lien qui a été établi. Alors rappelez-vous, fin novembre, nous étions à Mourinx, dans les Pyrénées-Atlantiques. On avait rencontré Hélène, l'épicière. On est en ligne avec elle. Vous avez vu le président hier à la télé?
De toute façon, il ne nous a pas parlé de tout ce qui nous a intéressé, je pense.
Oh oui, mais enfin, il était quand même super. Vous êtes gonflée, Hélène l'épicière. Non, là où le président devrait mettre plus de moyens, c'est pour les services psychiatriques. Je vois, nous, par exemple, avec Nico, hier, on rendait visite à Sainte-Anne à un ami qui a, disons, un petit coup de moins bien.
Le vent, il fait... c'est la bise. Voilà.
On a passé une partie de l'après-midi avec Laurent Cabrol. Il nous a fait la bise, la tramontane, le sirocco andalou. Quand on est arrivé, il était à la fenêtre. Il fixait un point à l'horizon en écoutant son chanteur préféré, Johnny Ped.
On a tous quelque chose en nous que Tennessee.
Et oui, c'était donc lui, Johnny Ped. On a tenté de stimuler Laurent en lui parlant de l'actualité. On lui a même demandé s'il voulait qu'on lui procure un iPad avec l'application Météo France. Il nous a répondu.
Moi, ce que j'attends avec impatience, c'est le retour du Minitel.
On a compris que la route serait encore longue avant qu'on puisse vraiment parler de rémission. On est resté encore un moment, on a mis BFM TV, il y avait un reportage sur Michelle Obama, Lolo a eu cette phrase.
Mais sympa Madame Obama, j'aurais bien aimé être son potager moi aussi.
Voilà, en repartant, pour ne pas trop le troubler, ben, on a remis Johnny Ped.
Quelque chose en nous de Tennessee.
Quelque chose, oui, mais quoi, Lolo? On ne sait pas, on ne sait pas.
Merci Mathieu Noël. Debout les copains tous les matins à 5h en forme.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.